Ton universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le Monde aujourd'hui, édition spéciale à l'occasion de la fête de Thanksgiving aux États-Unis. Un magazine spécial vous sera présenté d'ici quelques minutes après ce bulletin d'information. Ici chez Robin Dorsil. Le chef rebelle centrafricain Abdoulaye Miskine a été relâché de sa prison camerounaise moins de 48 heures après la libération du prêtre polonais Mateusz Dziedzic, retenu en otage pendant plus de mois par ses hommes, a constaté un journaliste de l'agence France Presse. Monsieur Miskine a été présenté à la presse ce soir à l'aéroport de Brazzaville par les autorités congolaises à sa descente d'avion en présence du père polonais. Les deux hommes devaient rencontrer le président congolais Denis Sassou Nguesso, médiateur régional pour la crise centrafricaine, pour le remercier du rôle qu'il a joué dans leur libération. Monsieur Miskine est apparu libre de ses mouvements, mais on ignorait jeudi soir s'il serait autorisé à quitter le Congo. Abdoulaye Miskine est un ancien allié de la rébellion Seleka, coalition à dominante musulmane, qui a été au pouvoir à Bangui de mars à décembre 2013. Il était détenu au Cameroun depuis son arrestation en 2013 à la frontière entre ce pays et la Centrafrique. Au Burkina Faso, le général de brigade Gilbert Diendéré, un proche de l'ancien président Blaise Compaoré, décrié par la population, a été démis de ses fonctions. La présidence de la transition a émis des arrêtés mettant fin à ses fonctions. En tant que chef de l'état-major particulier de la présidence du Faso, mesure similaire prise à l'encontre de deux autres fonctionnaires de l'ancien régime, le conseiller spécial de Blaise Compaoré, Damo Justin Barrault, et le secrétaire permanent du conseil présidentiel pour l'investissement, Djibrina Barry. Sachez aussi que l'Assemblée intérimaire du FASO, le CNT, Conseil national de transition, a tenu sa première session en présence de ses 90 conseillers aujourd'hui. Ce Conseil national de transition est composé de 30 membres issus de l'opposition, l'opposition au président Compaoré bien sûr, 25 de la société civile, 25 de l'armée et 10 de la précédente majorité. Les représentants de l'armée au CNT sont venus jeudi en uniforme. Le conseil, présidé par un civil, le journaliste Chérif Moumina Sy, aura de vrais pouvoirs législatifs. La Guinée accueille ce vendredi le président français François Hollande. Durant cette visite, un accord sera signé pour la création d'un institut Pasteur à Conakry fin 2016. Deux jours avant la visite, le président guinéen Alpha Condé a averti qu'il ne tolérera pas de manifestations de rue tant qu'Ebola sévit dans le pays. Zakaria Camara.
Pas de manifestation pendant la période d'Ebola.
Si vous voulez discuter de loi électorale, c'est au Parlement. Si vous voulez discuter de la CENI, c'est au Parlement. C'est pas dans la rue. Tout le monde est député. Donc c'est au Parlement qu'on doit discuter.
Ebola qui n'aurait pas empêché le président français d'effectuer une visite à Conakry pour le président Condé, c'est un symbole fort. Cela veut dire que tout le monde peut venir en Guinée, conclut-il.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un ingénieur somalien employé par une société turque a été tué aujourd'hui lors d'un attentat à la voiture piégée dans la capitale somalienne Mogadiscio. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Les islamistes Shebab, affiliés à Al-Qaïda, ont toutefois été accusés d'une série d'attentats visant à la fois les responsables politiques, des Somaliens rentrés de l'étranger, ainsi que toute personne liée à des compagnies étrangères ou au gouvernement soutenu par la communauté internationale. Le chef suprême de l'Iran a apporté ce jeudi son soutien à la prolongation des négociations nucléaires entre son pays et les grandes puissances, après le récent échec des discussions de Vienne pour sceller un accord. L'ayatollah Ali Khamenei a toutefois déclaré que les puissances occidentales ont davantage à perdre en cas d'échec total des négociations. Les grandes puissances exigent que l'Iran réduise sa capacité nucléaire afin d'empêcher qu'il dispose un jour de la bombe atomique. Les États-Unis se disent horrifiés en apprenant que le gouvernement syrien de Bachar al-Assad a tué des dizaines de civils dans des frappes aériennes mardi contre la ville de Raqqa, bastion de l'État islamique. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres, mais qui dispose d'un réseau d'informations sur le terrain, au moins 95 personnes ont été tuées dans les raids de l'aviation syrienne, y compris au moins 52 civils. Attentat suicide à Kaboul, 5 personnes sont mortes, dont un citoyen britannique, lorsqu'un kamikaze a percuté un véhicule de l'ambassade de la Grande-Bretagne avec une voiture bourrée d'explosifs. Et l'attaque revendiquée par les talibans a également fait 33 blessés, selon le ministère afghan de l'Intérieur. Voilà pour ce bulletin d'information, ici chez Robin Dorsil, en direct de Washington. Restez branchés sur VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique pour une édition spéciale avec Idriss Fall. Les retouches de constitution pour rester au pouvoir et les pays où le verrou de la limitation des mandats présidentiels a été enlevé ou n'a jamais existé pour légitimer ces sortes de présidents à vie. Les exemples ne manquent pas sur le continent. José Eduardo dos Santos dirige l'Angola depuis septembre 1979 à la mort du premier président Agostinho Neto. Au Tchad, Idriss Déby Itno, arrivé au pouvoir en 1990 à la suite du président Hissène Habré, a organisé en 2005 un référendum pour enlever de la constitution tchadienne les limitations de mandat. Au Sénégal, le président Abdoulaye Wade a voulu se présenter pour un troisième mandat, mais les Sénégalais ont décidé autrement, c'était en 2012. Au Burkina Faso, Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 27 ans, a voulu modifier l'article 37 de la Constitution et, en 48 heures, les 30 et 31 octobre, Blaise Compaoré a été obligé de prendre le chemin de l'exil. Les tentations de rester éternellement au pouvoir, Timothée Donangmaï a joint à Ouagadougou Dany Aïda, directeur des programmes du National Democratic Institute.
Je crois que globalement, on peut dire que la transition se met en place relativement de façon normale. Une fois que le président de la transition a été trouvé, le premier ministre a été nommé, puis le gouvernement a été formé. Même si on peut remarquer que suite à des contestations, le ministre de la Culture a dû démissionner, donc nous croyons qu'il sera remplacé dans les prochains.
Comment s'explique le cumul de fonctions avec le président qui garde le portefeuille de la diplomatie et le Premier ministre, celui de la Défense?
Pour le Premier ministre, c'est ce qu'on peut essayer de comprendre, vu que c'est celui-là à qui les civils ont fait appel quand la chute du régime Compaoré a été constatée. Et je crois qu'il s'est assigné une mission de préserver l'ordre et la sécurité. Et j'ai l'impression que en voulant assurer la fonction de ministre de la Défense, il se dit certainement, le lieutenant-colonel Zida, qu'il veut continuer à avoir la maîtrise de ses troupes, assurer la cohésion de l'armée et certainement aussi veiller aux intérêts de cette armée. Je crois que c'est cette explication qu'on peut donner au cumul du poste de ministre de la Défense avec celui de Premier ministre. Maintenant, ce qui concerne le président du Faso, par contre, le président de la transition, c'est assez discutable dans la mesure où on reconnaît bien que c'est un diplomate. Et on sait aussi que le président de la République a d'office des prérogatives exorbitantes en matière d'affaires étrangères. Maintenant, ce n'était pas indispensable que ce poste soit cumulé avec le président. En même temps, on a dans ce gouvernement quand même un ministre en chef de la coopération qui aurait pu bien sûr assurer d'une manière ou d'une autre la fonction des affaires étrangères. Donc, mais là, par contre, ça semble assez original. Il y a beaucoup de commentaires. Certaines personnes disent que peut-être l'armée dont le rôle dans cette transition est assez déterminant veut d'une certaine manière occuper le président Afando et continuer peut-être à s'occuper de l'essentiel.
Est-ce qu'on peut dire que tous les obstacles majeurs ont été éliminés dans la voie de cette transition vers les élections de novembre 2015?
C'est très difficile à dire à l'état où nous sommes, du moment où on ne connaît pas la feuille de route du gouvernement de transition qui est mise en place. Hein. Il y a quelques idées qui ont filtré. Le président Afando, dans son discours d'investiture, a fait ce nombre de proclamations, de déclarations. Et on ne connaît pas non plus le programme qui va guider le CNT en termes de réforme à entreprendre vers les élections, en termes de priorité pour la gestion des affaires publiques. Est-ce que ça va fonctionner comme une assemblée nationale dans une république normale ou bien est-ce que la période qui doit durer quand même 12 mois doit aller vers l'essentiel? Je crois que nous attendons de connaître les orientations, disons les axes stratégiques que les dirigeants de la transition vont définir et c'est ça qui doit permettre à la population et à nous autres observateurs de nous faire une idée claire des ambitions des uns et des autres et surtout les résultats auxquels cette transition peut aboutir.
Dany Aïda, directeur de programme du National Democratic Institute au Burkina Faso.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Au Togo, L'opposition dit avoir engagé un bras de fer pour obtenir des réformes avant la présidentielle de 2015. Le président Faure Gnassingbé a exclu toute réforme de la Constitution pour limiter les mandats présidentiels. Après la manifestation réprimée le 21 novembre dernier, l'opposition togolaise appelle à une nouvelle marche le vendredi 28 novembre pour exiger la réforme. Les militants du parti au pouvoir qui ne veulent pas de modification de la Constitution souhaitent eux aussi manifester le même jour. Le point avec notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Au moment où dans certains pays la lutte est engagée pour que les constitutions ne soient pas toilettées, l'opposition togolaise, elle, use de stratégies diverses pour obtenir la révision de la loi fondamentale du Togo. À moins de 4 mois de la prochaine élection présidentielle, les partis politiques regroupés au sein du combat pour l'alternance politique en 2015, CAP 2015, comptent sur la pression de la rue. Pour les associations acquises à la cause du président de la République, la rue n'est pas une bonne stratégie. Noël de Pouken, président de Nouvelle Jeunesse pour le soutien au président fort, NJSPF.
Avec la force, avec les rues, rien n'est possible. Mais quand on s'assoit pour dialoguer, pour échanger, je crois qu'on finit par un consensus. Si l'opposition veut vraiment la réforme, qu'il passe par la voie la plus autorisée, la voie normale, la voie des institutions. Pour les réformes, je crois qu'il n'y a pas un temps pour les réformes. Dire que les réformes vont se faire avant ou après, le tout c'est de commencer par la bonne voie. Et quand l'heure sonnera, les réformes seront faites.
Pour le dialogue, l'opposition n'y est pas contre. Le candidat de CAP 2015 a rencontré le samedi 22 novembre dernier le président de la République. Jean-Pierre Fabre dit avoir réitéré la nécessité des réformes à Faure Gnassingbé. Nous écoutons Jean-Pierre Fabre.
J'ai dit au chef de l'État que, en sa qualité de chef de l'État garant de la paix sociale et de la cohésion nationale, il lui revenait de prendre la mesure de la situation et d'éviter à notre pays les drames, les tragédies que vivent des pays de la sous-région en raison de la rupture du consensus national. Il faut nécessairement que les réformes se fassent parce que des élections sans ces réformes n'ont aucun sens.
La modification de la Constitution n'est plus possible, estime Atia Dediafo, militant du parti au pouvoir Union pour la République.
À 4 mois des élections présidentielles, on ne peut pas toucher au texte. C'est 6 mois avant. Nous sommes à 4 mois des élections présidentielles, comme au niveau de l'Assemblée nationale. Les gens vont se réunir pour dire qu'ils veulent changer la Constitution. C'est pas possible. Soyons quand même réalistes. Nous respectons la Constitution. Aujourd'hui, c'est pas nous qui modifions la Constitution pour que le président reste. Mais nous sommes dans la légalité. La Constitution a prévu cela. Il ne faut pas faire l'amalgame. Unis, c'est un parti qui respecte la Constitution, qui respecte la loi.
Après le rejet de la loi portant réforme le 30 juin dernier par les députés de la majorité présidentielle, ceux de l'opposition viennent d'introduire une proposition de loi. Rappelons que c'était le 30 décembre 2002 que le Parlement d'alors a révisé la Constitution en rendant le mandat présidentiel illimité et réduisant le nombre de scrutins à un tour. Ce sont essentiellement le retour de ces deux dispositions que l'opposition togolaise vise en exigeant les réformes. Kailasson Lomé pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Au Bénin, le président Thomas Yayi Boni a répété à plusieurs reprises qu'il partirait à la fin de son dernier mandat malgré de multiples pressions de proches du pouvoir pour faire sauter le verrou constitutionnel limitant le nombre de mandats du président. L'opposition et la société civile ne baissent pas la garde et se donnent la main pour faire échec à toute tentative allant dans ce sens pour faire perdurer Yayi Boni au pouvoir. Reportage de notre correspondant à Cotonou, Peggy Ludovic Dagba.
La constitution béninoise a issu plusieurs récriminations depuis plusieurs années, dont les nombreux problèmes qui se sont posés à la démocratie béninoise auraient pu être facilement résolus si elle contenait les dispositions adéquates. l'inexistence de la Cour des comptes, l'élection du président de l'instance de régulation des médias par les membres, qui fait défaut parce qu'il est désigné jusque-là par le président de la République, et certaines autres matières justifient sa révision. Mais à contrario, les Béninois n'en veulent pas dans leur majorité. Lot Khouenon et Symphorose Agbangbe sont des leaders d'opinion.
Il faut balayer hors de la République tout projet visant à réviser la Constitution, parce que lorsqu'on touche à un seul article de la Constitution, l'actuel chef d'État qui est en exercice, il devient un nouveau citoyen, alors il tombe dans une nouvelle République, ça veut dire qu'il peut être candidat, pas avoir de conséquences. Il faut qu'on range cette affaire de révision de la Constitution.
Nous avons vécu plusieurs épisodes pour aboutir à une révision opportuniste dans ce pays. Tous les Béninois sont individuellement contre la révision de la Constitution. Aucun gouvernement va nous organiser quoi que ce soit comme révision. Il faut un groupe de constitutionnalistes pour travailler s'il faut vraiment réviser un jour.
Dans le rang des partis politiques, surtout de l'opposition et de la société civile, le discours est le même. Le centriste mouvement de la prospérité solidaire, lui, est totalement opposé à toute révision de la Constitution. Daniel Eda, président du MPS.
Avec le report sine die des élections municipales, communales et locales depuis l'année 2013, avec cette lépine qui peine à sortir, au même moment, au regard des souffrances de nos compatriotes, une certaine tension couvre dans le pays. Le Burkina vient de nous envoyer un message. Le peuple est incontrôlable quand il se déchaîne. Même les partis politiques n'arriveront pas à le maîtriser. Et par rapport à tout ça, le Mouvement pour la prospérité solidaire, MPS, trouve qu'il est inopportun de vouloir encore réviser cette constitution avant les élections présidentielles de mars 2016.
Sa solution pour éviter toute suspicion.
La révision de la Constitution, si telle est que nous devons maintenir un certain accord à la réviser, d'après moi, devrait intervenir au plus tard 6 mois après la prise de fonction du prochain président de la République.
La mouvance présidentielle qui faisait de la révision de la Constitution son cheval de bataille a, semble-t-il, déposé les armes. Certaines personnalités qui ont refusé de se prononcer sur la question nous ont quand même confié, hors micro, que le dossier serait classé par leur leader. Mais pourquoi figure-t-elle toujours dans l'ordre du jour au Parlement béninois? Bien malin, qui pourrait y répondre? Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour la Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Bénin, sur Fraternité FM à Parakou.
La Voix de l'Amérique, une édition spéciale avec Idriss Fall, les retouches de constitution pour rester au pouvoir et les pays où le verrou de la limitation des mandats présidentiels a été enlevé ou n'a jamais existé. Le Cameroun n'a connu que 2 présidents depuis son indépendance, Ahmadou Ahidjo qui a démissionné en 1982 et mourra plus tard au Sénégal. Son successeur Paul Biya règne sur le pays d'une main de fer depuis 1982. Le Cameroun fait partie des pays qui ont modifié leur constitution pour faire sauter le verrou de la limitation des mandats présidentiels et c'était en 2008. Le point avec notre correspondant à Yaoundé, Jules Elobo.
Comme dans bon nombre de pays africains, le vent de la modification constitutionnelle a soufflé au Cameroun. Le mois de février 2008 reste une période qui aura marqué les esprits au travers des soulèvements. Njoya Moussa, politologue.
Les émeutes de 2008 n'étaient pas les émeutes de la faim au Cameroun. C'était des manifestations de contestation de la modification constitutionnelle. Parce que dans l'opinion publique, il était déjà clair que lors de la session parlementaire de mars-avril, le gouvernement camerounais entendait procéder à la modification de l'article 6.2 qui limitait le mandat. Et c'est pour cela que les forces de l'opposition du Cameroun sont descendus dans la rue et que malheureusement, lorsque l'affaire s'est corsée, contrairement au Burkina Faso ou au Togo, les responsables politiques qui avaient demandé aux enfants de descendre dans la rue se sont rétractés et ont abandonné la jeunesse à elle-même qui s'est fait canarder.
Des mouvements de protestation enregistrés, alors que la population croyait s'acheminer vers une alternance au sommet de l'État. Que non, l'exécutif et le législatif ayant décidé autrement. Njoya Moussa.
Il était déjà intériorisé depuis la Constitution de 1996 que le pouvoir était dévolu pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois et que le règne du président Paul Biya devait arriver à échéance au plus tard en 2011. Même au sein du gouvernement, lorsque vous lisez les anciens secrétaires généraux à la présidence que sont Jean-Marie Atangana Mebara ou Marafa Amidou Yaya, tous vous font savoir que c'était clair. On connaîtrait tout au moins une transition et a fortiori une alternance à la tête de l'État en 2011.
Le phénomène de révision constitutionnelle est donc devenu récurrent dans les pays comme le Cameroun où les dirigeants comptent plusieurs années de magistère. Stéphane Akwa, politologue et chercheur à la Fondation Paul Anguilla.
Les tentatives de révision de constitution, on le constate, sont toujours initiées par des gens qui ont déjà plus de 10 ans au pouvoir. On n'a jamais vu quelqu'un arriver au pouvoir et directement, après 2-3 ans de résultats positifs, dire et demander à la population, vous avez vu que je suis un bon président, pensez-vous entre nous qu'on pourrait pas revoir cette histoire de limite des mandats. C'est toujours des gens qui n'ont plus rien à proposer, qui sont à bout de leur énergie et parfois de leur énergie vitale, qui voudraient rester là parce que peut-être pour eux, la mort... À la présidence, à quelque chose de plus honorable.
Âgé aujourd'hui de 81 ans, le président Paul Biya compte déjà 32 ans de pouvoir. La suppression de la limitation des mandats lui offre la possibilité de briguer un autre mandat présidentiel en 2018. Yaoundé, Jules Lobo, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Au Congo-Brazzaville, le débat sur le changement de la constitution s'est ravivé avec les derniers événements au Burkina Faso. En dehors de la parenthèse du président Pascal Lissouba, le pays est dirigé par Denis Sassou Nguesso depuis 1979. Le Parti congolais du travail, parti au pouvoir, n'arrive pas à se déterminer sur la question et appelle les acteurs politiques au dialogue. Des détails avec Ngouéla Ngoussou, notre correspondant à Brazzaville.
Pierre Ngolo, le secrétaire général du PCT, le parti au pouvoir, qui devait se prononcer sur le débat sur la constitution, prône aujourd'hui un dialogue des acteurs politiques autour de cette question. Certains centristes comme Angios Ngambé et Jean-Michel Bokamba Yanguma jugent opportun cet appel au dialogue. Mais dans l'opposition, l'interprétation est diverse. L'ancien ministre d'État Victor Tamba Tamba, aujourd'hui responsable du Congrès africain pour le progrès, doute du contenu d'un tel dialogue.
Le contenu, si dialogue il y a, il doit être un contenu fixé par les parties prenantes, toutes les parties prenantes. Ce n'y aura pas sur la question un dictat.
Clément Mirassa, dont le domicile a récemment été saccagé par la police à cause de cette question de constitution, ne voit pas l'intérêt d'un tel dialogue.
Pour nous, la préoccupation essentielle d'un dialogue aujourd'hui, c'est la préparation d'une élection présidentielle libre, démocratique et transparente en 2016. Le premier tour devrait avoir lieu le 10 juillet 2016 et nous sommes maintenant à moins de 600 jours et on ne prépare pas cette échéance. Et le reste, je considère que c'est du divertissement. Et le PCT sait que ce qu'ils font, tout ce folklore, il est dépassé. La preuve. Vous n'entendez plus les grosses voix.
De son côté, Paul-Marie Pouélé de la plateforme Sauvons le Congo estime que ce dialogue devrait tourner autour des questions de l'alternance démocratique à Denis Sassou Nguesso.
Nous ne sommes pas véritablement intéressés si la question qu'on doit aborder, c'est la question de la Constitution. Si on peut aborder des questions réglementaires du genre un recensement administratif spécial, d'accords partis, la révision de la loi électorale pour que nous ayons une commission électorale véritablement indépendante, au besoin même avec l'assistance de la communauté internationale. Je pense que là, ce sont des questions qui sont importantes pour un passage de pouvoir civilisé en 2016.
Mais une bonne partie de la jeunesse congolaise ne comprend pas pourquoi ce débat prend autant de place dans la vie nationale.
Que nous avons beaucoup de jeunes qui sont là en train de faire ce qu'ils n'ont pas appris à l'université dans le but de subsister. Certains deviennent des vendeurs de crédit, ils tiennent des petits restaurants quelque part, certains derrière les mamans en train de vendre les beignets. Mais je crois que c'est ça qui devait plus intéresser, c'est le débat qui devait être au créneau. Ce sont ces sujets-là qui devaient être soulevés.
Nguela Ngusu, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
En République démocratique du Congo, l'opposition accuse le président Joseph Kabila de vouloir se représenter à la fin de son mandat en 2016 malgré la limitation imposée par la Constitution. Le gouvernement a récemment demandé une modification de la loi fondamentale mais rejette toutes les accusations de tripatouillage pour que M. Kabila puisse rester au pouvoir. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, a même dit sur nos ondes qu'on leur faisait un mauvais procès. Modifier ou ne pas modifier la constitution en République démocratique du Congo, le reportage de notre confrère Dominique Dinanga de la radio Top FM, partenaire de la Voix de l'Amérique.
Le débat sur la modification de l'article 220 qui limite à deux les mandats du président de la République suscite une vive polémique. La majorité, l'opposition et la population sont loin de s'accorder. À l'opposition, on est formel. Il est hors de question de toucher l'article 220 de la Constitution. Martin Fayoulou est leader de l'opposition congolaise.
La Constitution a dit en son article 220 que la forme républicaine de l'État, que le nombre de mandats pour le président de la République et d'autres questions ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une révision. Nous disons ici, touche pas à mon 220. Nous disons, c'est fini, il n'y a pas de présidence à vie en RDC. Nous nous battons pour que ce pays soit réellement un pays de droit. Nous nous battons pour le respect des textes. Et nous nous disons aussi que le peuple congolais doit être suffisamment informé. Nous allons continuer notre campagne de vulgarisation et nous allons nous opposer à toute personne qui voudra instaurer la dictature au pays.
Du côté de la majorité présidentielle, on soutient que la Constitution elle-même a prévu le mécanisme de sa révision, même en ce qui concerne l'organisation d'un référendum en vue de modifier les articles dits intangibles. Lambert Mende est membre du bureau politique de la majorité.
C'est un droit constitutionnel qui est reconnu à différentes catégories de notre nation. Le président peut initier un référendum, un certain nombre de députés ou sénateurs peuvent le faire, le gouvernement, après en avoir délibéré en Conseil des ministres, et 100 000 citoyens. Alors, si les partis membres de l'AMP souhaitent réunir 100 000 signatures ou demander à ce gouvernement qui est le leur de prendre une telle initiative, je ne vois pas au nom de quel principe on poserait même la question. Va-t-on demander à quelqu'un pourquoi il exerce un droit qui lui est garanti par la Constitution ? La Constitution n'est pas une statue qui ne peut pas bouger. Elle a prévu elle-même les dispositions de sa révision.
Et pour la population, il faut absolument respecter les dispositions de la Constitution promulguée en 2006.
Je ne suis pas d'accord. Qu'on change peut-être la loi électorale, c'est là où les politiciens nous avaient peut-être caché quelque chose. Mais la Constitution reste telle qu'elle était. On ne peut pas continuer à changer la Constitution comme leur chemise.
Nous ne voulons pas parce que derrière ça, nous pensons qu'il se cache une tension. De façon à ce que le mandat du président Kabila soit prolongé, alors qu'il doit prendre fin en 2016.
Le débat sur la révision de la Constitution, lancé 2 ans avant la fin du mandat présidentiel de Joseph Kabila, promet des surprises tant que le chef de l'État lui-même ne s'est pas encore prononcé. Kinshasa, Dominique Dinanga, Top Congo FM pour La Voix de l'Amérique.
C'était une édition spéciale avec Idriss Fall sur les retouches de Constitution pour rester au pouvoir et les pays où le verrou de la limitation des mandats a été enlevé ou n'a jamais existé.
Merci Idriss Fall pour ce segment spécial. Roger Muntou nous rejoint d'ici quelques instants à 20h temps universel pour le RM Show. Ici, chez Ruben Orsi.